Alors Jean-Philippe Bouchaud est né en 1962. Il est ancien élève de l'école normale supérieure. Il est docteur en physique, physicien de formation. Il a commencé sa carrière au CNRS. Mais il a aussi travaillé en dehors de France, notamment à Cambridge. Et depuis 1993, il est ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, qui, comme le public ne le sait pas toujours, ne s'occupe pas uniquement d'énergie atomique, mais a un département de recherche extrêmement dynamique et extrêmement qualifié. Il est expert au commissariat à l'énergie atomique. Ses recherches portent sur la physique des systèmes désordonnés, sur la matière granulaire, mais on verra quel rapport il peut y avoir avec la bourse, sur la statistique des mouvements boursiers et la modélisation des risques financiers. Il est un des fondateurs il a aussi fondé une société, la société Sciences et Finances, en 1994, qui cherche à promouvoir des méthodes issues de la physique statistique pour aborder des problèmes de finance et qui emploie des jeunes chercheurs en physique. Il a obtenu en 90 le prix IBM du jeune chercheur et en 95 la médaille d'argent du CNRS. Il est l'auteur à Cambridge University Press, d'une théorie des risques financiers et de très nombreux articles dans des revues spécialisées à comité de lecture.
Merci beaucoup. C'est évidemment beaucoup d'honneur pour moi de parler dans cette série très prestigieuse de tous les savoirs. Donc c'est un savoir un peu particulier dont je vais vous parler aujourd'hui, mais qui me semble très très intéressant du point de vue intellectuel et scientifique et qui a de nombreuses retombées. Alors, tout le monde a vu dans sa vie un cours boursier. Un cours boursier, en voilà un. C'est la bourse américaine depuis le début du siècle. Et alors cet objet, cette bestiole qui monte et qui descend sans arrêt, on peut la regarder de différentes façons. On peut la regarder un peu comme un économiste ou comme un historien pour essayer de comprendre ce qui s'est passé un jour donné, pourquoi ça a monté, pourquoi ça a baissé. Mais on peut avoir un point de vue très différent, qui est un point de vue statistique, qui est de se dire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette chose-là en moyenne? Quelles sont les récurrences, les turbulences, les régularités qui apparaissent dans un schéma comme celui-là? Et est-ce qu'on peut trouver d'autres types de systèmes où on trouve des choses similaires? Et vous verrez, j'essaierai de le dire plusieurs fois, que des situations physiques en particulier, qui n'ont a priori rien à voir avec la bourse, conduisent à des séries temporelles. Donc une série temporelle, c'est un objet comme celui-là, c'est une valeur qui varie dans le temps, qui peut être des choses très différentes. Dans un écoulement turbulent, il s'agit de la vitesse de l'écoulement en un point, qui varie tout le temps. Et on retrouve des régularités et une texture statistique, j'emploierai peut-être souvent ce mot-là, qui essaye de, un peu comme un tissu, vous allez voir que ces courbes, on peut les reconnaître un peu à l'œil, et on aimerait comprendre pourquoi, comment, et quels sont les fondements d'une théorie qui conduirait à de tels objets. Alors, bon, je suis évidemment conscient de la difficulté de faire passer des messages scientifiques dans un public très hétéroclite, donc je vais essayer de vous dire les choses de façon aussi simple que possible. J'espère y parvenir, mais c'est évidemment jamais gagné d'avance. Alors, donc cet objet, on peut en dire plusieurs choses de façon générale. D'abord, si je ne vous avais pas dit que c'était la bourse américaine, il aurait été, bon, si on n'a pas une culture qui permet immédiatement d'identifier par exemple cet événement-là qui est la grande dépression des années 30, c'est en fait très difficile de reconnaître un cours boursier d'un autre. C'est-à-dire que si je vous avais montré d'autres données, par exemple le cours du pétrole, le cours d'une devise, c'est sans unité, par exemple sans axe des X, qui est, ici j'ai donc représenté 0, ça veut dire 1900, 1000, 100, ça veut dire l'année 2000. Si je ne vous donne pas les dates ni les échelles, en fait ces cours de la bourse se ressemblent énormément les uns les autres. Et donc ici il y a déjà quelque chose d'étonnant, qui est une régularité très forte, qui est relativement indépendante et surprenante finalement du type d'objet traité. On peut regarder donc le pétrole, le cours Deutsche Mark Dollar ou une action, et tout ça se ressemble beaucoup. Donc c'est une première indication qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu profond et universel à comprendre. La deuxième chose, c'est que cet objet en fait a une espèce d'invariance temporelle aussi. C'est-à-dire que je vous ai montré ce dessin qui est un dessin qui montre le cours de la bourse journalier sur l'échelle d'un siècle. Mais en fait, si on avait regardé cet objet avec un microscope ou si on avait zoomé sur une partie de cet objet, on aurait vu quelque chose de très similaire. Autrement dit, en fait, de façon surprenante, qu'on regarde un cours boursier journalier à l'échelle d'un siècle ou un cours boursier à l'échelle de la demi-heure sur une semaine, on voit des choses qui se ressemblent énormément. Et donc, j'y reviendrai aussi beaucoup dans la suite. Alors sinon, pour la petite histoire, il y a évidemment des choses qui sont extrêmement importantes, qui apparaissent dans un cours boursier et qui n'apparaissent pas dans les premières modélisations qui en ont été faites, ce sont les crashs. En particulier, vous voyez celui de 29 ici, qui est une très forte discontinuité dans la courbe, disons, qui est suivie par la Grande Dépression. Et puis, il y a un crash mémorable de 87, qui est ici. Alors ces crashs sont très très importants. Bien sûr, 22% de baisse en 87 en une seule journée, c'est un événement tout à fait considérable, qui peut avoir des répercussions sur la vie de chacun d'entre nous. En même temps, à l'échelle du siècle, vous voyez que c'est presque rien. Et en particulier, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce dessin est encore donné semi-logarithmique, c'est-à-dire que ici, c'est bien l'échelle du temps qui passe linéaire, mais ici, on a pris le logarithme du cours de la bourse de New York, parce que si on n'avait pas pris, la bourse a tellement monté en unité absolue qu'on ne verrait absolument pas le début de la courbe. Donc, ce que je viens de vous dire veut dire en fait que la bonne façon de réfléchir à ces choses, c'est en termes relatifs, c'est en termes de rendement, en pourcentage par an. Et donc, la bourse américaine, bon gré mal gré, fait quand même 5 à 6% de hausse moyenne, bien entendu, ce qui veut dire que sur un siècle, ça fait une hausse considérable. Alors, le début de l'approche scientifique des marchés financiers remonte en fait au début du siècle, et la personne qui en est responsable est quelqu'un qui est finalement très peu connu, et c'est très très injuste qu'il soit si peu connu, parce que il a vraiment d'une certaine façon fait partie du mouvement de son temps que je vais rappeler, mais il a vraiment fondé aussi l'école de mathématiques financières et d'approche scientifique des marchés financiers, qui est en totale explosion depuis 20 ans et qui est maintenant monnaie courante dans toutes les banques, les établissements financiers et les assurances du monde entier. Donc c'est Louis Bachelier qui, en 1900, fait une thèse sous la direction d'Henri Poincaré qui s'appelle « Théorie de la spéculation ». Et il fonde véritablement plusieurs disciplines. En particulier, et je vais le rappeler dans 5 minutes, il invente le mouvement brownien, qui est en général attribué à Einstein 5 ans plus tard. Et il l'invente vraiment. Souvent, on réécrit un peu l'histoire en disant qu'à partir d'une petite phrase cachée dans un article scientifique, on en conclut que l'auteur avait pressenti une découverte postérieure. En réalité, la thèse de Bachelier est remarquable de plusieurs points de vue, et elle est disponible très facilement, elle est rééditée, vous pouvez vous la procurer si ça vous intéresse, mais c'est une thèse que je trouve tout à fait exemplaire. Et Bachelier, malheureusement, a eu une carrière finalement qui n'a pas du tout reflété cette qualité extraordinaire de son travail prémonitoire. Bref, donc la recherche en physique en particulier depuis le début du siècle se caractérise par un glissement de ce qu'on appelle une prédiction. La science de Newton, c'est une prédiction absolue des trajectoires. Puis est venu le temps de l'incertitude. Donc je fais un petit diagramme ici pour vous expliquer un peu ce que j'entends par cette séquence de prédictions de moins en moins absolue, en quelque sorte. Donc, le premier petit schéma ici, évidemment, je l'ai représenté un peu comme un cours de la bourse, mais ça pourrait être la trajectoire d'une particule matérielle, d'un point matériel, d'un objet. Et donc, Newton invente des règles qui permettent de prédire le mouvement, enfin, la position de la particule, si on connaît ses positions antérieures. Donc, il s'agit ici d'une prédiction absolue, et c'est en général ce que le grand public comprend de la science, c'est que la science est capable de faire des prédictions absolues. En réalité, bien sûr, c'est vrai dans certains cas, mais au fur et à mesure que les siècles ont passé, on s'est rendu compte que certaines situations étaient beaucoup moins favorables à cette prédiction absolue. Donc, la théorie des erreurs est apparue. On s'est rendu compte que si on ne connaissait pas précisément le passé, il était impossible de prédire précisément le futur. Donc, est apparue la notion de barre d'erreur, de prédiction incertaine, un flou autour de la position future de la particule, mais tout de même, ça reste une prédiction utile. En particulier, si on a une prédiction même incertaine du cours de la bourse de demain, clairement, on est très content parce qu'on peut gagner de l'argent à partir de cette prédiction. Malheureusement, il y a des situations qui, pour des raisons diverses, ne se prêtent même pas à cette prédiction incertaine, et on est obligé de passer à un degré de prédiction moindre, qui a tout de même un sens très précis, et c'est finalement la surprise, qui est une prédiction probabiliste. La prédiction probabiliste, j'ai essayé de la représenter un petit peu ici, dans mon troisième diagramme, consiste à dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, Mais quelles sont les possibilités et quelles sont les probabilités associées à ces possibilités? Évidemment, quand on tire un dé, on sait très bien que les possibilités sont de 1 à 6 et que si le dé n'est pas biaisé, on a une probabilité 1 sixième d'obtenir chacun des nombres. Pour un courboursier, c'est beaucoup plus compliqué, a priori, puisque le mouvement entre aujourd'hui et demain peut prendre n'importe quelle valeur, a priori. Donc en pourcentage, on pourrait imaginer des chutes de 50%, et ça arrive sur la bourse des actions. On a des mouvements de 50% sur une action en une seule journée. Donc ce qu'on aimerait caractériser au moins, c'est quelles sont les probabilités relatives de ces mouvements. Et donc, ce qu'on observe en général, c'est cette courbe en cloche, qui veut dire que les mouvements les plus probables sont les plus petits et les mouvements les moins probables sont les plus extrêmes. Et évidemment, c'est l'intuition. L'intuition nous confirme bien que c'est le cas. Les crashs extrêmes peuvent apparaître, mais ils sont moins probables que les petits mouvements. Mais on aimerait dire un peu plus que ça. On aimerait qualifier réellement de façon précise cette loi de distribution pour savoir ce qui peut se passer entre aujourd'hui et demain, quels sont les contrôles de risque qui sont adaptés. Si vous avez un portefeuille boursier, est-ce que si vous vous réveillez demain avec une chute de 20%, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? À quoi faut-il s'attendre? Donc, passage d'une prédiction absolue à une prédiction probabiliste, et Bachelier est un des premiers dans sa discipline qui n'existe même pas à l'époque, qui est la mathématique financière, à remplacer l'idée qu'il faut réfléchir à la bourse en termes économiques, en termes de réflexion sur la capacité d'une entreprise à faire des profits dans le futur, etc. Et qui se dit finalement, il y a peut-être un court-circuit à tout ça, qui n'a pas la même portée, bien entendu, mais qui peut être utile, qui est un court-circuit probabiliste, qui est se dire finalement, on ne sait pas grand-chose, la bourse a autant de chances de monter que de descendre. En fait, puisque la bourse fonctionne, ça veut dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Les acheteurs pensent que ça va monter, les vendeurs pensent que ça va descendre. Donc, cette espèce d'équilibre qui se crée dynamiquement en permanence veut bien dire qu'en réalité le futur est incertain et qu'une théorie basée sur le pari que finalement l'incertitude prévaut est peut-être pas un pari idiot. Alors, avant de passer donc un peu plus précisément au modèle de Bachelier, qui vous allez voir est très simple et qui pourtant conduit à des surprises sur lesquelles j'insisterai, je voudrais vous montrer deux types de hasards qui sont donc caractérisés par des lois de distribution différentes. Alors, une loi de distribution, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ce qui caractérise les probabilités relatives d'une certaine quantité. Et il faut distinguer, et j'y reviendrai à de nombreuses reprises, deux types de lois qui sont très différentes l'une de l'autre. Une que j'ai appelée ici une loi étroite, dont l'archétype est la loi de Gauss, la loi normale, qui veut dire qu'autour d'une certaine valeur moyenne, on a relativement peu de fluctuations. Donc, l'idée même de parler de moyenne a un sens. Alors, par exemple, la taille des individus dans une population est typiquement caractérisée par ce type de loi. On a une valeur moyenne qui est, disons, 1,70 m, et puis des petites fluctuations autour de ce 1,70 m, et les événements extrêmes sont évidemment très, très peu représentés. En revanche, il y a des phénomènes qui n'ont absolument rien à voir avec cela, parce qu'au lieu d'être distribués de façon étroite et donc bien centrés autour de leur valeur moyenne, ils sont distribués de façon très très large, ce qui veut dire que la valeur moyenne n'est pas du tout significative du phénomène. Donc ici, j'ai représenté une loi très large, dont un exemple caractéristique est ce qu'on appelle la loi de Pareto, donc la loi de Gauss ici, la loi de Pareto ici, qui caractérise par exemple la distribution des revenus ou des fortunes dans une population ou des recettes faites par un film cinématographique, ou etc. Et disons, une façon de se rendre compte intuitivement de la différence entre ces deux types de lois, c'est de se poser la question de savoir s'il est probable d'observer un événement 10 fois supérieur à l'événement typique. Donc dans une population, je vous ai dit tout à l'heure, la taille moyenne est de 1,70 m, donc typiquement les gens mesurent 1,70 m, et évidemment, on n'a absolument aucune chance de rencontrer quelqu'un qui fait 17 mètres. En revanche, si on se pose la question équivalente pour les revenus ou les fortunes, le revenu moyen doit être autour de 8 000 francs par mois. Il est évidemment, on trouve des gens qui gagnent 80 000 francs, on en trouve même qui gagnent probablement 800 000 francs par mois. Donc on voit clairement que le phénomène est distribué sur plusieurs décades, sur plusieurs échelles de salaire, de fortune, et qu'une distribution piquée n'a certainement rien à voir avec la réalité, ce qui veut aussi dire que la notion même de moyenne est insensée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'énormément de phénomènes économiques sont caractérisés par des lois larges. Je vous ai dit tout à l'heure, les recettes d'un film cinématographique sont dans ce cas-là. On se souvient tous de Titanic qui rembourse à lui tout seul un très grand nombre de films qui n'ont pas connu de succès. Donc on a clairement ces événements tout à fait largement distribués. Donc deux types de lois de distribution, deux types de hasards qui sont très différents. Mandelbrot, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui a énormément réfléchi à toutes ces choses, appelle ce type de hasard un hasard bénin et celui-là un hasard sauvage, ce qui est un mot relativement imagé pour dire ce que je veux dire. Donc, prédiction absolue, prédiction probabiliste, modèle de hasard, loi étroite, loi large. Maintenant, je voudrais vous parler du mouvement brownien de Bachelier et Einstein, qui est en fait un modèle de l'incertitude maximum. Bachelier se dit, finalement, que se passe-t-il si je ne sais rien du tout, et si je dis qu'entre aujourd'hui et demain, les fluctuations peuvent être n'importe quoi et totalement aléatoires, sans corrélation aucune, c'est-à-dire que l'observation du passé ne me renseigne en aucune façon sur l'avenir. Et alors l'objet qu'on construit à partir de cette hypothèse, c'est un objet qui est donc appelé le mouvement brownien, qui a cette tête-là. Donc ici, évidemment, c'est un objet reconstruit sur ordinateur, qui n'est pas un cours boursier réel, mais qui, à première vue, y ressemble un peu. Alors, on a toujours le temps sur l'axe horizontal, et puis un cours fictif sur l'axe vertical. Puis ce que j'ai représenté en haut ici, décalé, ce sont les fluctuations quotidiennes, c'est-à-dire la différence entre un prix et son prix antérieur. Vous voyez, on a une espèce de petit gazon qui fluctue de façon relativement étroite, justement. Parce que, donc, de façon plus précise, la façon dont on construit cet objet, c'est de tirer à pile ou face à chaque instant si le cours va monter ou descendre, et on le fait monter de plus 1. Enfin, dans cette unité, je pensais plutôt plus 0,01 probablement, enfin d'une quantité fixée, ou de moins 0,01. Mais on aurait pu choisir un peu ce qu'on veut, on aurait pu choisir de tirer de façon probabiliste ce déplacement élémentaire par une loi quelconque. À grande échelle, on observe toujours la même chose qui est le mouvement brownien. C'est ça qui caractérise le mouvement brownien, c'est sa grande universalité par rapport à la façon dont il est construit. Alors, avant de vous décrire un tout petit peu le mouvement brownien, qui est donc le modèle de Bachelier, vous pourriez vous dire, et peut-être de nombreux auditeurs ici sont venus en se disant qu'ils allaient repartir avec des règles pour boursicoter de façon plus efficace, ça c'est pas du tout le thème de la présentation, je m'en excuse, mais vous pouvez évidemment vous demander à quoi ça sert de dire que tout est aléatoire. Alors si la prédiction est aussi faible que ça, est-ce qu'il y a une vertu quelconque à une approche scientifique qui dit qu'on ne sait rien? Et bien curieusement, oui, de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est le contrôle du risque. C'est même si on ne sait pas ce qui va se passer, il est très important quand on construit un barrage de savoir quelles sont les crues qui risquent de se produire dans un siècle. Toute l'activité humaine est basée non pas nécessairement sur une connaissance précise du futur, mais sur une appréciation des probabilités de crise, par exemple. Donc, un modèle purement statistique des cours de la bourse est très utile de ce point de vue-là. Et de façon curieuse, et j'espère avoir le temps d'y arriver, sinon c'est pas grave, vous pourrez vous renseigner sur en particulier le site web dont je redonnerai l'adresse à la fin de la conférence. Ces modèles d'incertitude sont devenus extrêmement précieux parce que les marchés financiers ont introduit de nouveaux objets, qui s'appellent par exemple les options, les produits dérivés. Et le prix d'une option, qui est une assurance en fait, un contrat d'assurance sur un actif financier, vous pouvez acheter une assurance qui fait que même si la bourse se casse la figure, vous ne perdez pas votre capital. Et ces options, exactement de la même façon qu'un assureur automobile a besoin de connaître le comportement des automobilistes pour donner un prix à sa prime d'assurance, de la même façon, les assureurs financiers doivent connaître les probabilités et les potentialités de mouvement d'un cours boursier pour donner un prix à ces assurances financières. Donc, curieusement, des modèles où on a l'impression qu'on ne sait rien sont en fait prédictifs de quelque chose. Et en fait, toute l'histoire de la physique du XXe siècle est très centrée autour de cette idée que des modèles de hasard peuvent être d'une certaine façon prédictifs. Donc la loi de distribution gaussienne, qui caractérise les fluctuations de ce mouvement brownien de Bachelier, est une loi étroite, je vous l'avais montré tout à l'heure. C'est donc en particulier une loi où les événements extrêmes sont extrêmement peu fréquents. Il n'y a donc pas de crash dans ce mouvement brownien. Et si vous avez regardé un peu attentivement le diagramme que je vous ai montré, et je vous en montrerai d'autres plus tard, mais effectivement, il n'y a aucune discontinuité, il n'y a aucun événement du type 1929 ou 1987, et on le voit très bien dans les accroissements journaliers qu'on voit ici, il n'y a pas du tout de pic vers le haut ou vers le bas qui correspondrait à ce qu'on appelle de grosses journées, de hausse ou de baisse. Donc, évidemment, pour la prédiction des risques financiers, c'est un très mauvais modèle, parce que ce modèle exclut d'office, d'emblée, la présence de ces crashs. Ceci dit, c'est un modèle qui est toujours utilisé parce que, vous allez le voir, il a énormément de propriétés qui sont très intéressantes. Alors, une de ces propriétés, c'est ce que j'ai appelé ici l'universalité. C'est ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'un diagramme comme celui que je vous ai montré dépend en fait extrêmement peu de la façon dont il est construit. On peut le construire un peu comme on veut, en tirant à pile ou face un cours qui monte ou qui descend d'une quantité fixe ou de façon plus compliquée, à grande échelle, on trouve toujours le même objet. Et en fait, c'est tellement vrai que cet objet est strictement invariant d'échelle, c'est-à-dire que, quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde, on voit toujours la même chose. Et c'est effectivement une des propriétés que je vous avais signalées sur mon premier transparent de la bourse américaine, c'est qu'on a effectivement cette impression d'invariance d'échelle, que, quelle que soit l'échelle de temps, on voit toujours un peu la même chose. Il y a une autre propriété tout à fait étonnante du mouvement brownien, qui pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, est un mouvement d'incertitude maximum, c'est qu'on a l'impression tout de même d'une certaine persistance de la chance, d'une apparition de tendance, et on le voit par exemple ici, vous voyez que dans toute cette période-là, on a l'impression d'avoir une hausse des cours faramineuse. Donc une période favorable dans cette économie fictive. Pourtant, à nouveau, le cours est construit en tirant à pile ou face à chaque instant du temps. Donc, ces tendances apparaissent de façon spontanée, mais n'ont aucune signification. Ce sont c'est un reflet de la nature curieuse. Je vous ai dit tout à l'heure que malgré le fait qu'on suppose un hasard maximum, il apparaît des surprises, c'en est une. C'est le fait que pendant très longtemps peuvent apparaître des périodes de pseudo-tendances. Alors, c'est très troublant parce que quand on regarde un cours boursier, effectivement, on voit sans arrêt des tendances et de nombreuses personnes, en particulier ce qu'on appelle les chartistes, qui sont des spéculateurs sur les marchés financiers qui se basent sur l'historique du cours pour prendre leurs décisions. Une de leurs prédictions favorites est basée sur l'apparition de tendances dans le passé. Alors, ces tendances sont-elles réelles ou sont-elles simplement le reflet d'un hasard total qui ne permet aucune prédiction? Autrement dit, il est impossible de gagner de l'argent sur le mouvement brownien. Il est impossible de faire une prédiction, par définition, qui soit rentable, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et demain. Pourtant, apparaissent ces tendances. Une deuxième surprise qui est un peu reliée à celle dont je viens de vous parler, de cette persistance des tendances, c'est le fait que apparaissent des lois larges. Je vous ai dit, la loi de distribution des variations de prix est très étroite, c'est une loi de Gauss, donc on n'a pas de crash, contrairement à l'observation quotidienne des marchés où, en fait, les lois de distribution sont beaucoup plus larges que celles prédites par ce mouvement brownien. Mais si on regarde le mouvement brownien un petit peu différemment, apparaissent des lois larges. Et alors, par exemple, une des lois larges qui est la mieux étudiée, c'est la loi des temps de retour, ce qu'on appelle la loi des temps de retour à l'origine. Alors, cette loi des temps de retour à l'origine, elle veut dire la chose suivante. Imaginez que vous investissiez dans ce mouvement brownien à la date zéro, donc vous avez un certain capital initial, et puis évidemment votre capital va monter et descendre au gré de ces fluctuations totalement aléatoires, et puis les périodes où vous êtes heureux, c'est évidemment les périodes où votre capital est supérieur à votre capital initial, et vice-versa, vous êtes malheureux quand vous êtes en dessous. Donc vous voyez ce mouvement brownien ici, ben, on a certaines périodes où on est au-dessus et certaines périodes où on est en dessous pour des raisons totalement aléatoires. Mais pourtant, si on regarde les temps qui séparent les retours à l'origine, c'est-à-dire les temps qui séparent les moments où vous êtes heureux et les moments où vous êtes malheureux, apparaît immédiatement une très grande gamme de temps. Vous voyez que, par exemple, entre ces deux temps-là, on a un relativement petit intervalle. Cet intervalle ici est énorme, donc pendant toute cette période, vous êtes malheureux. Et puis, il y a des intervalles tout petits. Par exemple, ici, je n'ai même pas eu la place de mettre un point rouge entre les deux retours à l'origine. Ici, vous êtes resté heureux pendant très très peu de temps, etc. Et si vous regardez la distribution de ces intervalles, donc la distribution des temps pendant lesquels vous êtes heureux ou malheureux, vous trouvez une loi très large. Une loi de Pareto qui ressemble énormément à ces lois de distribution de fortune dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que ces lois de Pareto sont caractérisées, je vous l'ai déjà dit dans le cas du cinéma tout à l'heure, par ce qu'on pourrait appeler une dominance des extrêmes. Un événement extrême domine entièrement l'observation du phénomène. Donc, je voudrais vous l'illustrer, cette idée-là, d'une façon un petit peu différente, qui est en termes de résultat du tiroir-caisse d'un épicier ou d'un bijoutier. Alors, voilà un épicier qui trace en fonction du nombre de clients ce qu'il a vendu, la somme des facturettes qu'il a émises. Et ce que vous voyez ici, c'est une ligne pratiquement droite. Même si les gens n'achètent pas tous exactement la même chose, et si on fait un petit zoom, vous voyez qu'en fait, il y a des petites fluctuations dans la pente ici. Ce que ça veut dire, c'est que, en moyenne, les gens achètent, je ne sais pas, pour 500 francs par semaine de nourriture. On ne peut manger qu'un poulet par jour, comme disait Marcel Dassault. Donc, tout le monde achète plus ou moins la même chose. Et au bout du compte, si on somme ce qu'on a vendu, on obtient une droite dont la pente est la dépense moyenne de chaque client. Et voilà ce que fait un bijoutier. Lui, il a un profil totalement différent, parce que le bijoutier, lui, a dans sa boutique des objets qui ont des valeurs extraordinairement différentes. Un bijou très rare peut valoir plusieurs millions de francs, et puis on peut vendre une alliance quotidiennement à 2000 francs. Donc on a des événements tellement différents que quand on regarde le résultat du tiroir-caisse, enfin je ne sais pas si tiroir-caisse est très adapté pour parler du bijoutier, mais peu importe, on voit ces seaux gigantesques de toutes les tailles qui correspondent aux objets précieux qu'il a vendus. Donc visuellement à nouveau, une très grande différence entre loi étroite et loi large. Et la raison pour laquelle je vous présente ce dessin, c'est que vous verrez tout à l'heure justement comment des dessins similaires apparaissent dans la description des cours boursiers et comment cette distinction entre loi large et loi étroite apparaît de façon récurrente. Alors justement, j'y viens. J'ai très peu d'équations dans mes transparents. Ici, j'ai introduit une quantité que j'ai appelée delta xi, qui est la variation de cours entre, disons, aujourd'hui et demain. Donc le delta XI, c'est ce que je vous ai représenté ici à plusieurs échelles. Par exemple, la différence entre ce point-là et ce point-là, c'est ce que j'appelle delta X1. Donc si on regarde, par exemple, ici, ça serait par exemple entre aujourd'hui et un mois plus tard, on a une certaine variation que j'appelle delta X. Alors, si delta X est grand positif ou grand négatif, c'est-à-dire si le cours monte beaucoup ou descend beaucoup, on dit que le marché est agité. Donc delta X en lui-même n'est pas la bonne quantité pour décrire l'agitation des marchés. Évidemment, on sait bien que si on veut un nombre positif pour le décrire, il faut simplement prendre le carré pour éliminer le signe, pour avoir quelque chose qui ait la même valeur si le cours monte beaucoup ou baisse beaucoup, si on s'intéresse simplement à décrire sa propension au mouvement et non pas sa direction de mouvement. Donc delta X carré s'introduit relativement naturellement comme la mesure de l'amplitude du mouvement à l'instant I. Alors, ce qui est intéressant dans le mouvement brownien, c'est que si on somme maintenant, si on fait la somme de ces amplitudes, donc ces delta x au carré, si on les somme dans le temps, eh bien, on obtient quelque chose qui est indépendant du pas élémentaire qu'on a choisi pour décrire le phénomène. Ça revient à cette idée d'invariance d'échelle dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que je veux dire plus précisément, c'est que si vous calculez vos delta x à l'échelle du mois, par exemple, vous en prenez le carré et que vous les sommez, vous allez trouver le même résultat que si vous calculez vos delta x à l'échelle de 15 jours, donc il y en a plus, ce sont les traits bleus, mais ils sont d'amplitude en général moins importante. Et la compensation du fait qu'on a plus de delta x carré à sommer, mais que chacun d'entre eux est plus petit, fait qu'au bout du compte, on trouve le même résultat. Donc on a une mesure ici cumulée, si vous voulez, de l'activité du marché, qui est simplement la somme des delta x, qui a une vertu essentielle, qui est de ne pas dépendre de l'échelle de temps qu'on choisit comme unité de description. Et donc, si on regarde pour un mouvement brownien, c'est là que vous allez reconnaître des choses dont je vous ai parlé à l'instant sur l'épicier et le bijoutier, si on regarde le mouvement brownien et qu'on somme ces delta x carrés, ben ce qu'on trouve, c'est une belle ligne droite dont la pente maintenant caractérise la propension à bouger, caractérise non pas la hausse ou la baisse qui disparaissent parce qu'on a pris un carré, mais qui mesurent la façon dont le cours fluctue d'un jour sur l'autre. Alors c'est ce que j'ai appelé ici sigma, qui apparaît dans cette équation, que la somme des delta x se comporte linéairement en temps, c'est ma ligne droite, avec une pente qui s'appelle sigma carré. Et sigma, c'est ce que dans le marché on appelle la volatilité, qui est bien entendu a un nom qui éclaire par lui-même ce qu'il veut dire, et qui donc mesure la propension des prix à fluctuer. Alors un ordre de grandeur caractéristique, c'est 3% par jour. Une action monte et descend, ou descend, de l'ordre de 3% par jour, qui est relativement important. Et puis, dépendant des marchés, ce chiffre varie, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image globale qu'on obtient quand on regarde un cours financier est la même. Bien sûr, les chiffres sont différents. Par exemple, 3% par jour, c'est une donnée typique pour des actions. Si on regarde un indice comme le CAC 40, qui est en général ce qu'on entend à la radio, la volatilité est plus faible, elle est plutôt de l'ordre de 1% par jour que de 3% par jour, parce qu'on a un effet de moyenne qui fait que la diversification de son portefeuille, si vous voulez, réduit les fluctuations. Alors, donc une caractéristique majeure du mouvement brownien, c'est que cette propension à fluctuer est constante dans le temps, et que le temps boursier, qui est d'une certaine façon justement le temps réel, est celui-là. Et vous voyez qu'on peut donc définir un espèce de temps boursier qui est la cumulée de tout ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et vous voyez que le temps boursier et le temps réel se comportent de la même façon. La ligne droite qui relie l'un à l'autre indique justement que ces deux quantités sont les mêmes. Et c'est donc une propriété cardinale du mouvement brownien d'avoir un temps boursier uniforme. Alors, maintenant, venons-en au marché financier réel. Et vous allez voir que dans ces marchés financiers, au contraire, le temps est hautement non uniforme. Alors, il y a des raisons diverses pour ça. Il y a des raisons un peu triviales qui sont les effets saisonniers. Par exemple, il y a des rythmes à l'intérieur de la journée qui font que la volatilité, la propension à fluctuer n'est pas la même à 9h du matin à l'ouverture des marchés, à midi à l'heure du déjeuner ou à la fermeture des marchés. Donc, effectivement, l'idée de temps uniforme oublie un phénomène qui est évident, que j'ai représenté ici. Ici, excusez-moi, c'est en anglais, c'est le volume d'activité en fonction de l'heure de la journée, moyenné sur les jours qu'on a regardés. Donc, vous voyez que donc, ici, c'est l'ouverture des marchés. Le volume d'activité est en moyenne très fort, tend à décroître, atteint un minimum autour de l'heure du déjeuner, et puis remonte et est à nouveau grand en fin de journée. Donc évidemment, le temps boursier, qui est une mesure de ce volume d'activité, fluctue au cours de la journée et fluctue de façon régulière. Il est toujours plus fort, cette volatilité est toujours plus forte en début de journée, en fin de journée qu'en milieu de journée. De la même façon, on peut trouver des rythmes intra-hebdomadaires. Et voilà une courbe similaire en fonction du jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et vous voyez que systématiquement, le lundi, l'activité est moins forte, augmente et redescend en fin de semaine. Donc, par rapport au mouvement brownien, on a évidemment ces corrections saisonnières qu'il faut prendre en compte. Mais à la limite, elles ne sont pas très importantes. On pourrait modifier un tout petit peu le mouvement brownien pour prendre en compte ces fluctuations saisonnières. Mais vous allez voir quelque chose de beaucoup plus brutal qui se passe dans les marchés financiers. Évidemment, on pourrait penser à des effets mensuels ou annuels. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de données au fur et à mesure qu'on augmente dans les échelles de temps. Et c'est de plus en plus difficile de faire des courbes statistiques qui veulent dire quelque chose. Mais en particulier, il y a un effet qui s'appelle l'effet décembre-janvier et qui semble effectivement montrer que les marchés ne se comportent pas tout à fait de la même façon en fin d'année qu'en milieu d'année. Donc, effets saisonniers d'une part, mais les effets les plus importants qui sont reliés à ce contrôle du risque dont je vous parlais tout à l'heure et à la non-gaussianité, à la présence de queues de distribution de doigts larges très importants dans les marchés financiers sont ce que j'ai appelé ici des effets turbulents. C'est le fait que si vous regardez les variations de prix d'un jour sur l'autre de la bourse américaine depuis le début du siècle, donc ici, c'est le même diagramme que celui que je vous ai présenté tout au début, mais où au lieu de tracer le prix en fonction du temps, j'ai tracé les variations de prix en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est un schéma qui n'a absolument rien à voir avec celui du mouvement brownien, puisqu'on a des périodes d'activité extrêmement intenses, des bouffées intermittentes d'activité. Par exemple, dans les années 30, vous voyez que le cours a tendance à baisser en moyenne, mais il peut aussi monter très violemment ou descendre très violemment, et tout ce paquet d'activités se voit très bien. Mais on a des paquets d'activités de taille beaucoup plus petite, comme ici, et puis des paquets d'activités de taille intermédiaire. Le crash de 87 doit être autour de là, etc. Et donc, vous voyez ici une baisse d'activité très forte. Vous voyez donc un schéma d'activité qui est très, très différent du mouvement brownien. Par exemple, une façon de le voir de façon évidente, c'est de montrer les deux courbes sur la même image. Le mouvement brownien ici, qui est ce schéma qui finalement est très bien centré autour de sa moyenne, et puis la bourse de New York ou n'importe quelle autre série financière. À nouveau, on retrouve cette universalité des phénomènes dont je vous parlais tout au début, qui fait que j'aurais pu prendre n'importe quel exemple ici de données financières, on aurait toujours trouvé ce même genre de décomposition entre des paquets d'activités très importants et des régions où l'activité est beaucoup moindre. Donc ces bouffées intermittentes d'activité sont en quelque sorte des accélérations du temps. C'est des moments où le temps passe plus vite. En revanche, quand l'activité est faible, le temps s'écoule plus lentement. Et ce que vous avez vu sur mon diagramme précédent, c'est que ces périodes de haute volatilité ou de basse volatilité peuvent persister sur plusieurs jours parfois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la gravité de la crise en général, de l'incertitude qui se poursuit ou non. Parfois, les marchés s'agitent à cause d'événements politiques relativement mineurs ou de déclarations d'hommes politiques influents, et puis restent agités pendant quelques jours seulement. Mais parfois, à l'occasion, par exemple, de la guerre du Golfe ou de crises plus importantes, les marchés restent agités pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et c'est cette présence de différentes échelles de temps dans les fluctuations des marchés financiers qui font qu'on s'éloigne de la modélisation du mouvement brownien de façon radicale et qu'on se rapproche de phénomènes qui n'ont l'air d'avoir rien à voir, qui sont les phénomènes de turbulence dans les fluides. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer un tout petit peu maintenant, simplement avec des images, c'est que se sont introduites des notions de temps qu'on appelle fractal ou multifractal, et d'analogies fortes entre ces dessins de marché financier et les dessins qu'on obtient en regardant des écoulements turbulents. Alors, vous vous souvenez, je pense, de mon diagramme qui montrait l'évolution de ce que j'appelais le temps boursier en fonction du temps réel. C'est cette ligne droite qui est aussi la ligne de l'épicier, qui montre qu'en fait, parler en temps réel ou en temps boursier dans le mouvement brownien revient au même. Si on fait le même diagramme maintenant, mais pour la bourse américaine, on obtient pas du tout une droite, on obtient quelque chose qui est très fluctuant. Par exemple, ici, cette pente importante, c'est la période de grande volatilité des années 30. Et puis, à nouveau, on a des événements ici, le crash de 87, etc. Mais vous voyez donc des périodes où effectivement la ligne droite n'est pas une mauvaise approximation, mais la présence de sauts importants. Et donc, en fait, on est dans une situation relativement intermédiaire entre l'épicier et le bijoutier. Et si vous vous souvenez, voilà ce qu'on obtiendrait si on avait des fortes fluctuations du temps qui passe. Ce diagramme est un peu intermédiaire entre les deux. Alors, en fait, le modèle du bijoutier est un des premiers modèles qui a été inventé dans les années 60 par Mandelbrot pour décrire les marchés financiers. Mais vous voyez, à l'œil, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on peut faire de la science avec des dessins. Et à l'œil, on voit très bien que le modèle de Bachelier est inadapté. On devrait voir une ligne droite, on ne la voit pas. Et on voit aussi à l'œil que, malgré le fait que le modèle du bijoutier, disons, décrit bien l'existence de ces petits sauts et de ces grands sauts, à l'œil, ça ne marche pas non plus. On a quelque chose qui a l'air fondamentalement différent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrichir le modèle et arriver à reproduire un dessin réaliste, c'est-à-dire un dessin avec lequel on peut être d'accord sans même faire de mesures, simplement à l'œil? Une fois qu'on aura construit un modèle comme celui-là, et c'est donc l'enjeu de la recherche actuelle, on pourra faire de la simulation, par exemple. Un des grands outils modernes de la science, c'est l'ordinateur, c'est la possibilité de faire des simulations. À partir du moment où on sait comment construire un modèle et comment le simuler, comment le faire évoluer dans le temps, alors on pourra construire des histoires fictives de marchés financiers et tester des modèles de contrôle du risque, exactement comme on testerait la résistance d'un barrage à des crues qu'on n'a pas encore vues. Alors, voilà le même diagramme de la volatilité de la bourse américaine, mais à une échelle très différente, à une échelle qui va de l'année 91 à l'année 98. Et vous voyez à nouveau, et c'est cette invariance d'échelle qui est tout à fait extraordinaire, des périodes, même à cette échelle-là, qui n'est plus l'échelle du siècle, des périodes de basse volatilité, des périodes de forte volatilité qui s'alternent. Encore une fois, sur la somme des delta xi carré, c'est-à-dire ce temps qui passe, ce temps effectif qui passe, vous voyez un schéma très chahuté avec ici deux périodes qui apparaissent clairement, une période de volatilité modérée au début des années 90 et une période de volatilité nettement plus forte dans la deuxième partie de la période. Alors ce qui est intéressant, c'est de mettre ces images en comparaison avec quelque chose qui n'a l'air d'avoir rien à voir, et cette figure est extraite d'un livre d'Uriel Frisch qui est à l'Observatoire de Nice et qui a passé une grande partie de sa vie à réfléchir à ces problèmes. Et vous voyez ici un titre qui ressemble beaucoup à ma problématique des marchés financiers, « Why a probabilistic description of turbulence ?»« Pourquoi une description probabiliste de la turbulence ?» Et donc il essaye de justifier, un peu de la même façon que j'ai essayé de le faire au début, le fait que s'intéresser à la forme des signaux et en dire quelque chose d'un point de vue statistique peut avoir une utilité pour comprendre comment, par exemple, une turbulence inattendue peut briser une aile d'avion, par exemple. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le temps qui passe, toujours, et puis, en ordonnée, au lieu d'avoir un cours boursier, on a la vitesse locale de l'écoulement. Donc, on peut faire des mesures assez fines avec une sonde locale qui enregistre la vitesse locale du fluide qui est dans un écoulement donc très turbulent, qui bouge beaucoup dans tous les sens. Et ce que vous voyez, c'est que cette vitesse bouge tout le temps, sans arrêt, et qu'elle évolue à nouveau, un peu comme un cours boursier. Mais si votre œil s'est déjà un peu exercé, en effet, cet objet est différent du cours de la bourse. Il a l'air d'avoir des similarités, mais aussi des différences. Et il est aussi différent du mouvement brownien. Donc, c'est ce que j'essaye de vous faire sentir, c'est cette idée de texture statistique dont j'ai parlé au début. Avec un peu d'exercice, on arrive à se faire une idée de cette texture, de la brillance, un peu comme on dirait d'un tissu ou d'autre chose, de ces séries temporelles. Alors, l'analogie avec les marchés financiers apparaît quand, au lieu de tracer la vitesse elle-même, on trace les accroissements de vitesse. Et vous voyez qu'au cours du temps, dans un écoulement turbulent, on a, de la même façon que dans un marché financier, des périodes qu'on appelle laminaires, c'est-à-dire où l'écoulement est relativement stable et s'écoule de façon régulière, et puis des moments d'activité très intense dans l'écoulement turbulent, où ces variations de vitesse se font un peu comme des périodes de haute volatilité dans les marchés financiers. Et donc, cette analogie entre deux sujets qui n'ont l'air d'avoir absolument rien à voir est une des pistes qui sont explorées actuellement pour arriver à des modèles plus fiables de risques financiers. Donc, turbulence et régularité. Parce que une fois qu'on prend la loupe statistique, une fois qu'on adopte une description qui n'est plus en termes d'histoire individuelle, mais de loi de distribution, donc une fois qu'on s'abstrait de l'individualité des choses et qu'on les regarde de façon plus globale, eh bien on observe ces régularités qui sont très intéressantes et qui, elles aussi, suggèrent qu'on devrait pouvoir construire une théorie des marchés financiers, un peu comme on construit des théories de phénomènes physiques. Alors, quelles sont ces régularités? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le marché qu'on regarde, on voit toujours un peu la même chose à l'œil, mais on peut évidemment quantifier cette observation. En particulier, on peut s'intéresser à la loi de distribution des accroissements, mais delta X de tout à l'heure, qui sont les variations de cours. Et si on fait donc, si on analyse de façon empirique les lois de distribution qui apparaissent, au lieu d'avoir des lois de distribution de Gauss, qui excluent les crashs, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on observe en effet des lois de Pareto, c'est-à-dire des lois qui ont des queues de distribution pour les spécialistes qui s'appellent en lois de puissance, c'est-à-dire qui décroissent de façon très lente. Autrement dit, ces lois décrivent effectivement la possibilité d'événements extrêmes qui ne sont pas si peu fréquents que ça. Simplement pour vous donner une idée, si on avait une loi gaussienne, le crash de 87 n'aurait pas dû se produire, enfin la probabilité du crash de 87 est de 10⁻², c'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre 10⁻²⁰ années pour l'observer une fois, et 10⁻²⁰ années c'est beaucoup beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. Donc clairement, sans même faire d'expertise très profonde, on voit immédiatement que la loi de Gauss ne peut pas décrire les marchés financiers. La loi de Pareto, en revanche, arrive à attraper ces événements extrêmes qui sont très importants du point de vue du contrôle des risques. Alors cette loi de Pareto fait apparaître un exposant, ce qui s'appelle l'exposant de Pareto, mu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exposant de Pareto donc, décrit la largeur de la loi. Plus mu est petit, et plus on a des événements extrêmes. Donc, la loi de distribution des fortunes est caractérisée par un exposant mu qui est autour de 1,5 dans toutes les sociétés évoluées qu'on connaît. En revanche, pour tous les marchés qu'on a observés, mu est dans une gamme qui va entre 3 et 5. Donc la loi de distribution décroît plus vite que les fortunes, mais décroît beaucoup moins vite que la gaussienne. Et cet exposant mu semble nous dire que, quels que soient les marchés qu'on observe, on observe toujours plus ou moins la même valeur de ce paramètre, et donc il y a peut-être quelque chose de profond à comprendre du point de vue du fonctionnement des marchés et de l'apparition de ces événements extrêmes. Alors une autre quantité qui est régulière, c'est-à-dire qui a l'air de se reproduire identique à elle-même dans tous les marchés, c'est cet aspect persistance du volume d'activité. Donc à nouveau c'est un peu technique ici, pour donner une mesure quantitative de l'aspect visuel de tout à l'heure, c'est-à-dire de l'apparition de ces fenêtres temporelles où la volatilité est très forte, puis faible, etc., de cette alternance de périodes de haute volatilité, de basse volatilité à toutes les échelles de temps, on introduit ce qu'on appelle une fonction de corrélation, qui donc mesure comment la volatilité à un moment donné ressemble à une volatilité à un instant T plus tôt plus tard. Et ce qu'on trouve, à nouveau, ça sera peut-être les seules équations de mon exposé, mais ce qu'on trouve, c'est que cette fonction de corrélation décroît comme une loi de puissance, décroît de la même façon que ces lois de Pareto, avec un exposant nu qui est très petit. Le fait qu'il soit très petit veut dire qu'on a une persistance du volume d'activité qui peut aller très loin dans le temps. Et à nouveau, la valeur de nu semble être indépendante du marché qu'on considère. Donc, ce sont deux caractéristiques de la statistique des marchés financiers qui sont intéressantes parce qu'elles sont régulières, elles sont indépendantes du marché qu'on considère, et à nouveau, suggèrent que, transcendant le fait qu'on achète ou qu'on vend du pétrole, des cochons sur pattes ou des actions Alcatel, eh bien, il se passe quelque chose qui se reflète dans les statistiques des marchés financiers et qui doit être relié peut-être à des fondamentaux de la psychologie humaine, du fait que les gens aiment gagner et ont peur de perdre, et peut-être que des modèles très simples arrivent à reproduire ces phénomènes. Et alors ça, c'est une voie de recherche qui est très très prometteuse. Et je voudrais vous montrer graphiquement des résultats très récents qu'on a obtenus dans cette direction. Voici un modèle de marché totalement artificiel où on a mis des agents qui n'existent pas, et qui achètent et qui vendent une action. Et essentiellement, ces agents ont deux stratégies possibles. Soit ils se comportent comme des spéculateurs dans les marchés, c'est-à-dire qu'ils achètent et qu'ils vendent, soit ils restent en dehors des marchés et ils mettent leurs économies en obligations ou dans d'autres types d'investissements. Donc chaque agent décide de jouer à la bourse ou de s'abstenir en fonction du temps. Et ce qui lui fait changer d'idée, c'est sa performance passée. Et c'est effectivement très réaliste de penser que si on a beaucoup perdu à la bourse, en général, on rechigne à continuer à jouer. En revanche, si on se rend compte que si on avait joué, on aurait gagné beaucoup d'argent, en général, c'est une motivation très forte à revenir dans les marchés financiers. Donc voilà, notre modèle inclut ces deux phénomènes et c'est tout. Donc, dépendant du temps, le nombre de joueurs varie, parce que certaines personnes ont bu le bouillon, comme on dit, et donc se sont éloignées des marchés financiers, tandis que d'autres pensent pouvoir gagner et donc sont toujours dans les marchés financiers. Malheureusement pour eux, notre modèle est tel que ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire le cours de l'action, est une marche aléatoire, est un mouvement brownien. Donc en réalité, personne ne peut gagner dans ce marché. Mais comme je vous l'ai montré tout au début, le mouvement brownien a cette caractéristique perverse de vous donner l'impression d'être gagnant pendant très longtemps. C'était ma loi de temps de retour à l'origine qui est très largement distribuée. Vous voyez que tous ces agents qui sont dans cette configuration-là sont perdants et donc restent en dehors des marchés pendant très longtemps. Tous ceux qui sont ici ont l'impression, alors qu'en réalité leur investissement est aussi myope que celui d'un singe, de gagner de l'argent et donc restent dans les marchés. Conclusion de ce modèle, voilà l'évolution du volume d'activité en fonction du temps. Alors on peut caractériser cette courbe. Donc vous voyez en passage que vous avez déjà l'œil habitué puisque vous voyez très très bien que ça ressemble pas du tout ni à un prix ni à un écoulement turbulent. C'est encore autre chose. La texture de cet objet est encore différente de ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Alors on peut caractériser la statistique de cet objet par cette fonction de corrélation de la volatilité et on obtient quelque chose comme ça, peu importe. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce diagramme à celui qu'on observe vraiment dans les marchés financiers. Et voilà le vrai volume d'activité sur la bourse américaine en fonction du temps. Et vous voyez à l'œil que même si on n'a pas tout à fait la même chose, ça se ressemble beaucoup. Et alors de façon qualitative, c'est ce qu'on peut la conclusion à laquelle on peut aboutir, mais de façon quantitative, ce qui est intéressant, c'est que ce corrélogramme ou ce variogramme, peu importe, enfin cette fonction de corrélation du volume empirique, qui sont les traits, les losanges, et la prédiction de ce jeu très simple où les agents rentrent ou sortent du marché en fonction de leur performance passée, c'est la courbe en trait plein. Et vous voyez qu'avec un modèle extrêmement rudimentaire où on a mis uniquement une caractéristique qui semble raisonnable des agents, c'est-à-dire leur reluctance ou leur difficulté à jouer quand ils ont perdu, et au contraire leur impression qu'ils sont capables de faire quelque chose d'intéressant quand ils ont gagné, eh bien on arrive à reproduire une chose très importante des marchés financiers qui est cette persistance de la volatilité à long terme. Alors, j'ai peut-être encore 5 minutes. Donc, je voudrais revenir en conclusion sur ce que je vous ai dit au début, à savoir, mais de quelle façon un modèle d'incertitude maximum, où on ne dit rien, en tout cas on n'a aucune idée de savoir si le prix va monter ou descendre, à quoi est-ce que ça peut bien servir? Alors je vous l'ai dit, ça peut servir au contrôle du risque, mais ça peut aussi servir à donner un prix à ce qu'on appelle les options, donc c'est ce que j'ai appelé ici le prix des fluctuations. Les options sont, je vous l'ai dit au début, je le répète ici de façon un petit peu plus précise, les options sont des assurances sur les marchés financiers contre la hausse ou la baisse d'une valeur. Alors par exemple, si vous avez des actions du CAC 40, vous pouvez aussi acheter une assurance qui fait en sorte que même si la bourse se casse la figure, votre portefeuille a une valeur seuil inférieure assurée. C'est-à-dire que même si, en théorie, votre portefeuille ne devrait plus valoir que 20 francs, si vous l'avez assuré à 100 francs, eh bien, l'assureur vous le rachètera à 100 francs. Deuxième type d'assurance symétrique, une assurance contre la hausse d'une valeur. Par exemple, si vous devez aller aux États-Unis dans un mois et que vous avez peur que le dollar augmente, ce qui est une chose qui se produit tous les jours pour les sociétés surtout, qui ont des risques de change, eh bien vous pouvez acheter une assurance qui vous assure que même si le dollar arrive à 10 francs, vous ne le payerez toujours que 7,50 francs. On pourrait penser évidemment à des assurances contre la hausse du pétrole, et peut-être qu'il aurait été sage, de point de vue collectif, d'acheter des options contre la hausse du pétrole il y a quelques années, qui aurait permis de passer le choc avec plus de sérénité. Mais bref, peu importe. La question qui se pose pour les assureurs, c'est évidemment de savoir quel prix doivent-elles facturer à de telles assurances. Et je vous ai dit tout à l'heure, le prix d'une assurance a quelque chose à voir avec le comportement des automobilistes dans le cas de l'assurance automobile. L'assurance a quelque chose à voir avec la propension du cours à bouger entre l'instant où on vend l'assurance et l'instant où l'assurance peut être utilisée, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez prendre un contrat annuel d'assurance, et donc ce grand T ici serait l'année. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le premier modèle qui a été résolu et qui permet de donner une réponse précise à cette question est le modèle dit de Black et Scholes qui a été écrit et résolu donc, dans le début des années 70. Et Black est mort depuis, mais Scholes et Merton, qui est un scientifique américain, ils sont tous américains d'ailleurs, mais qui avaient trouvé des choses similaires à la même époque, Scholes et Merton ont eu le prix Nobel d'économie pour cette théorie en 97. Donc, le modèle de Black et Scholes pour donner un prix à ses assurances, c'est le modèle de Bachelier, à peu de choses près. Et en fait, l'assurance dépend directement et ne dépend que de la propension des actifs à fluctuer dans ce modèle. Et donc, en réalité, ce que j'avais appelé tout à l'heure la volatilité, c'est-à-dire la pente de mon temps uniforme brownien, eh bien, c'est la quantité qui vous permet, je ne vais pas la retrouver, mais peu importe, vous vous en souvenez, c'est simplement une ligne droite de toute façon, donc c'était justement ce que ces courbes réelles ne sont pas, c'est-à-dire des lignes droites. Donc dans le modèle de Bachelier, on trouve un prix d'option qui est directement, enfin, pas proportionnel, mais qui est une transformée simple de cette pente et qui donc mesure, effectivement, intuitivement, on sent bien que plus un actif financier a une propension forte à bouger, et plus ça va être cher de s'assurer contre ces fluctuations, bien entendu. Et la réponse à ce lien se fait de façon précise dans le monde de Bachelier, se fait de façon tellement précise que dans le monde de Bachelier, le risque couru par l'assureur est nul. Ce qui est très étrange, l'assureur est capable de vous fournir une assurance sans lui-même prendre de risque, ce qui paraît un peu étrange. Et en effet, l'étrangeté de ce résultat provient de l'hypothèse très forte que les marchés se comportent comme Bachelier l'avait proposé en 1900. Alors en fait, la volatilité ne se comporte pas du tout comme Bachelier le pensait, elle se comporte de façon fluctuante, et les options n'ont pas le même prix dans cette période et dans cette période, puisque justement la volatilité varie. Mais comme la volatilité varie de façon incertaine, exactement comme les prix d'actions varient de façon incertaine, se sont créés des marchés d'options. Autrement dit, c'est très étrange et très amusant d'une certaine façon. Au départ, on a les actions, et puis on se dit, ben, finalement, on aimerait s'assurer contre les fluctuations de ces actions. Donc on invente les options, mais les options elles-mêmes n'ont pas un prix certain. Et donc se créent des marchés d'options où les gens achètent et vendent ces options, exactement comme s'ils achetaient et vendaient des actions. Et donc, existent sur les marchés maintenant des options que vous pouvez acheter, revendre à volonté et pour lesquelles les prix se font suivant l'offre et la demande. Et donc, les marchés d'options réels, en réalité, sont des marchés d'anticipation de la pente de cette courbe. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu un tableau rapide et j'espère compréhensible de certains des enjeux de cette modélisation. Et j'espère que vous en avez apprécié l'intérêt scientifique, en tout cas. Merci. Merci.
Merci. J'ai deux observations. Premièrement, sur les courbes de pile ou face, vous voyez le résultat cumulé.
Oui,
depuis la face, ce que Mandelbrot nomme comme randonnée statistique, si je me souviens bien.
Oui, c'est la marche aléatoire, oui.
Alors, on a l'intuition de voir que plus le temps passe, plus la probabilité est grande d'observer une série continue de piles ou de faces.
Oui, alors c'est simplement un effet d'optique, effectivement. Oui. C'est d'une certaine façon le fait que si on n'attend pas très longtemps, un événement peu probable aura moins de chances de se produire qu'un événement plus probable.
Donc les variations de grande ampleur, dans un sens ou dans l'autre, se produisent. Donc la probabilité de la réalisation de ces événements s'accroît avec le temps.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, l'amplitude des variations a une mesure qui typiquement croît comme la racine du temps qui passe. Autrement dit, un mouvement journalier de l'ordre de 3% et le mouvement probable sur les marchés d'actions, si on se pose la question de savoir quel est le mouvement probable à l'échelle de 100 jours, eh bien, il est racine de 100, c'est-à-dire 10 fois plus grand, donc de 30%. Et c'est la loi du mouvement brownien est celle-là. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement brownien est invariant d'échelle, c'est-à-dire que si on se met à l'échelle de ce racine de t, c'est-à-dire qu'on divise les fluctuations par racine du temps, eh bien, on voit toujours la même loi qui est la loi gaussienne.
Bon, deuxième observation, le marché financier n'est pas purement brownien, dans le sens où il y a des forces extérieures qui agissent sur les agents. C'est-à-dire, un avis émis par JP Morgan n'a pas le même effet que celui d'un club d'investissement provincial.
Alors, merci beaucoup de cette question, parce qu'elle est tout à fait importante, et effectivement, elle est ce que j'avais essayé d'exprimer tout au début. Alors, effectivement, la bourse n'est pas un mouvement brownien pour de nombreuses raisons. En particulier, je vous ai montré, j'espère, plusieurs fois que ce dessin-là n'avait absolument rien à voir avec celui du mouvement brownien. Donc le modèle, effectivement, n'est pas du tout celui d'un mouvement brownien. Et certaines informations sont plus importantes que d'autres et conduisent à des fluctuations beaucoup plus grandes. C'est tout à fait vrai. Ceci dit, la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas un mouvement brownien, en tout cas que ce n'est pas tout à fait pile ou face, c'est le premier dessin de la bourse américaine que je vous ai montré, qui montre que sur 100 ans, elle a quand même fait 6% par an, ce qui n'est pas si mal. Donc, quoi qu'il arrive, il faudrait penser, sur des grandes échelles de temps, mettre une espèce de pente moyenne au mouvement brownien. Mais ça, ce n'est pas très compliqué à faire et on peut toujours le faire. Alors, le point, c'est que ce qui me semble très important à comprendre, c'est dans la démarche elle-même. C'est-à-dire que Bachelier en 1900 et plus tard Einstein ou surtout Langevin se posent un peu la question que vous vous posez différemment. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du mouvement brownien, qui est le mouvement d'une particule de pollen initialement soumise au choc incessant des molécules qui l'entourent, on peut toujours éventuellement raisonner comme vous le dites, c'est-à-dire se dire ma particule de pollen a beaucoup bougé à ce moment-là parce qu'il se trouve que plusieurs molécules ont conspiré pour lui donner un mouvement dans un sens. Mais en fait, est-ce que bien sûr qu'il peut parfois être intéressant de s'intéresser justement à l'histoire, c'est-à-dire à l'anecdote des phénomènes. Mais il y a une autre approche qui est celle justement de Langevin et celle que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui, qui est de s'abstraire totalement de cette histoire, de s'abstraire de la raison pour laquelle le marché a fait ceci ou cela à un instant donné, et simplement de comprendre de façon statistique l'évolution des choses sans en comprendre le détail. Et je crois que en général, il est tout à fait justifié de faire ça parce que l'information qui arrive sur les marchés financiers est tellement diverse, nombreuse et parfois difficile à interpréter que la potentialité de sa rationalisation me semble très faible. Par exemple, quand apparaissent justement des chiffres importants comme l'inflation américaine, etc., souvent on observe des variations des marchés financiers qui vont à l'envers de celui qu'un raisonnement simple aurait permis d'obtenir. Donc, disons, il y a l'information d'une part, mais il y a aussi l'interprétation de cette information qui rajoute une incertitude qui me semble considérable.
Oui, en fait, je voulais juste dire qu'en fait, d'après ce que j'ai compris de votre exposé, donc, les seuls gagnants de votre modélisation, en fait, ce sont les assureurs, quoi.
Non. Non, c'est pas vrai. Disons, à nouveau, le fait d'avoir acheté de la bourse et d'attendre sans vouloir spéculer bêtement tous les jours, d'ailleurs d'en augmenter la volatilité par le fait même de la spéculation, conduit à un investissement qui me semble relativement gagnant pour les individus aussi, à l'échelle humaine. Alors, à l'échelle plus faible, effectivement, on a tout un monde de spéculateurs haute fréquence. Et le marché d'options est un marché effectivement qui permet certains gains d'assureurs, mais qui en même temps fournissent un service. Donc, on peut débattre longtemps de l'utilité des marchés financiers, c'est sûrement pas mon but ici. Une chose que j'aurais voulu dire au départ, et qui me semble la justification ultime pour un scientifique de s'intéresser à ces problèmes-là, au-delà de la nécessité, à mon avis, réellement importante, de du contrôle des risques financiers. Parce qu'à nouveau, on s'intéresse beaucoup aux risques industriels, nucléaires, alimentaires, etc. Et les risques financiers sont des risques qui sont d'une gravité comparable. La crise des années 20, des années 30 nous l'a montré. Donc, réfléchir aux risques financiers me semble quelque chose d'important. Et curieusement, l'industrie bancaire dans son ensemble n'est venue que extrêmement tard à cette réflexion sur le risque. Et finalement, c'est très étrange qu'on ait laissé l'industrie bancaire pendant si longtemps ne pas avoir conscience de ses propres risques. En particulier, quand j'ai commencé moi-même à m'intéresser de façon plus précise à ces questions en 1994, les grandes banques françaises n'avaient pas encore un tableau de bord globalisé qui leur permettait de connaître à la fin de la journée leur position sur les marchés du monde. Donc, c'est pour vous montrer l'inadéquation des modèles de risque qui étaient utilisés à l'époque. Mais ceci dit, pour finir ma réponse, excusez-moi, j'ai là plusieurs parenthèses et bifurcations, mais le point important des marchés financiers, à mon avis, en tant que scientifique, c'est que c'est probablement le thermomètre ou le baromètre de l'activité humaine le plus précis et le plus documenté qui existe. On a, sur tous les marchés du monde, des cotations pratiquement en temps continu. Le Deutsche Mark Dollar est coté toutes les secondes et reflète l'activité humaine de façon quantitative et extraordinairement bien documenté. Et je ne connais pas d'autres exemples d'une activité aussi bien documentée qui reflète probablement quelque chose de profond à l'échelle, concernant la psychologie humaine en particulier. Donc ça me semble un très bon terrain d'expérimentation.
J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit. En fait, je pense que vous avez dit quelque chose à juste titre, qu'il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, et qu'à long terme, c'est les courtiers, l'État et les moins-values qu'on ne peut pas récupérer qui font l'affaire des marchés financiers. Il est évident qu'aujourd'hui, on essaie de faire un système intelligent du genre day trading où on est liquide en fin de journée en essayant de faire 1% par jour avec l'effet de levier pour pouvoir faire 250 jours à 2%, c'est-à-dire en multipliant un capital par 141. Commence avec 10 000 francs, on finit à 1,4 million. C'est très beau, mais ce n'est pas possible puisque, vous avez dit, il y a quand même un effet de marché brownien. Alors, il y a quand même beaucoup de logiciels qui vous donnent une plage de variance le jour d'après où on peut se mettre acheteur et vendeur à un niveau donné, hein, et où on peut faire l'aller-retour. Bon, ceci dit, ce qu'il faut, c'est qu'on soit au même... Pas égal avec les courtiers où eux ils peuvent payer 0,1% de frais de courtage et s'ils font 0,5 ou 0,6% dans la journée, ils ont fait leur affaire. Tandis que nous, si on va payer 0,6, 0,7 ou 0,8%, même si on fait un aller-retour en franco, c'est pas valable.
Oui, alors ce que vous dites est tout à fait vrai. Il est effectivement, par rapport au mouvement brownien, il y a des petites différences qui font que si on n'avait pas de frais de transaction, il serait possible de construire des stratégies gagnantes. Il y a effectivement des anomalies à la modélisation gaussienne, des petites corrélations qu'on peut détecter et qui peuvent permettre la construction de stratégies automatiques gagnantes. Le problème, effectivement, c'est que, en fait, même pour ce que vous appelez les courtiers, ces frais de transaction sont trop importants pour pouvoir gagner systématiquement de l'argent à long terme. Et là se pose une question vraiment importante de la validation statistique de modèles qu'on peut proposer pour, jouer sur les marchés. Et en général, cette validation statistique est très mal faite. Il ne s'agit pas de montrer qu'une règle qu'on met en œuvre a marché tel jour et n'a pas marché tel jour. Il faut vraiment se poser des questions très précises sur la rentabilité à long terme de telles opérations. Et en général, ces rentabilités à long terme sont très mauvaises, même pour les courtiers. Il faut réaliser que ce qu'on appelle frais de transaction a différentes facettes. En particulier, il y a évidemment les frais de transaction qu'on paye en tant qu'individu. Mais le fait même, et c'est une question très intéressante que je n'ai pas du tout le temps d'aborder, le fait même d'acheter ou vendre sur les marchés, c'est-à-dire même les opérateurs dont l'accès est le plus direct au marché, ont des frais de transaction cachés qui sont dus au fait qu'à partir du moment où vous achetez, le cours monte. Et si vous vendez, le cours descend. Et donc, le fait même d'acheter vous coûte de l'argent d'une certaine façon, non pas parce que quelqu'un vous prend directement une commission, mais simplement parce que la réponse du marché à un ordre de vente a tendance à être négative et la réponse du marché à un ordre d'achat a tendance à être positive. C'est ce qu'on appelle le slippage, le frottement, si vous voulez, qui fait qu'en réalité, des stratégies basées sur une analyse des cours passés ont, dans mon expérience, extrêmement peu de chances de fonctionner. Sauf si on fait extrêmement attention.
Oui, sauf si on est follower et pas acteur. Parce qu'on peut être acteur sur le marché et manipuler les cours.
Oui, bien sûr.
Tout dépend de la dimension des volumes, bien sûr. Et... Voilà. Merci.
Monsieur, on va vous apporter un micro.
Oui, on a l'habitude de faire l'analyse de valeur, soit par l'analyse fondamentale, soit par l'analyse graphique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots de la pertinence de l'analyse graphique ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en présentant ce graphe. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai malheureusement pas pensé à photocopier la page du livre correspondante, les gens qui font de l'analyse graphique, effectivement, essayent de repérer des patterns, enfin des dessins, des figures sur ce type d'évolution et en tirent des conséquences sur l'évolution future. Et alors, ce qui est très amusant, c'est, bon, d'abord, si on essaye de ce qu'on appelle backtester, c'est-à-dire faire fonctionner ces stratégies virtuellement dans le passé pour voir si à long terme elles sont gagnantes ou pas, toutes les stratégies que les gens expliquent en long et en large dans les livres ne marchent pas. C'est-à-dire que soit elles ne marchent pas tout court, parce qu'en fait elles marchent une fois sur deux et ça tout le monde est capable de le faire, soit elles ont tendance à marcher un peu plus qu'une fois sur deux, mais les frais de transaction dont on parlait tout à l'heure font qu'en réalité leurs profits sont relativement mauvais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans ce livre d'analyse technique, donc, qui est d'analyse graphique des cours, il est justement, l'argument est pris totalement à l'envers et qui montre bien que c'est assez subtil et qu'il faut comprendre les choses dans le bon sens. Les auteurs présentent un mouvement brownien qui tire d'un livre de probabilité et ils disent, vous voyez, même le mouvement brownien a des tendances, donc notre analyse est justifiée. Ce qui est le contraire de ce qu'il faut comprendre par ma courbe ici. La courbe ici fait apparaître des tendances qui sont totalement spurieuses, totalement artificielles, et aucune stratégie de gestion basée sur la reconnaissance de ces tendances ne peut être gagnante par définition sur ce mouvement brownien. Donc il y a quelque chose de très étrange dans le mouvement brownien qui est cette persistance de la chance qui peut se voir soit comme l'apparition de ces tendances qui n'en sont pas à quand même long terme ici, puisque ici l'échelle élémentaire c'est il y a 10 000 points dans ce dessin, donc l'échelle élémentaire c'est 1 dix millième. Vous voyez qu'entre disons 0,75 et 0,8 ça a monté, ce qui fait qu'il y a compté en jours, il y a énormément de jours où le cours a semblé vouloir monter tout du long. Or pourtant, si on fait une analyse, si on zoome par exemple sur ces parties-là, on retrouve notre mouvement brownien habituel. Donc c'est très étrange. Et de la même façon, la loi de retour à l'origine dont je vous parlais tout à l'heure peut indiquer qu'on est resté chanceux pendant très longtemps et que ça ne peut pas être le résultat de la chance uniquement. Or pourtant, ça l'est. Donc l'analyse graphique me semble peu fiable, l'analyse fondamentale est souvent beaucoup plus performante.
Bonjour. Vous avez parlé des modèles qui ont été développés pour prédire les risques financiers. Je voulais savoir pourquoi ces dernières années, des modèles comme celui de la valeur en risque ne sont pas révélés aussi pertinents pour prédire et nous permettre d'anticiper les crises financières.
Bien précisément parce qu'ils sont basés sur une hypothèse gaussienne, sur une hypothèse de mouvement brownien. Il n'inclut pas de façon correcte les codes de distribution. Donc l'enjeu, effectivement, de la recherche dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est d'améliorer ces modèles pour prendre en compte aussi bien que possible des risques qui sont malgré tout probables. Alors, on peut le faire d'un point de vue statistique, comme j'ai essayé de vous le montrer aujourd'hui, mais il faut quand même aussi comprendre que cette approche statistique est forcément limitée. Par exemple, quand on regarde... donc, c'est une partie importante de la réflexion, mais je pense que ça ne peut pas être la seule réflexion. Quand on regarde le cours de la devise thaïlandaise contre le dollar au cours du temps, pendant extrêmement longtemps, les deux devises étaient fixées l'une par rapport à l'autre. Donc, en fait, ce qu'on voit quand on regarde les fluctuations de prix, c'est rien du tout. C'est pratiquement rien. Deux courbes qui se suivent l'une l'autre parfaitement. Et puis, il y a eu un décrochage pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec, justement, les marchés, disons, dans leur fonctionnement libre, et qui fait que tout d'un coup, il y a une dévaluation du baht par rapport au dollar terrible, qui est bien entendu impossible à modéliser à partir du cours passé de la devise elle-même. Donc, il faut bien entendu avoir conscience du fait que quand on fait une modélisation statistique, on fait l'hypothèse que le monde tel qu'on l'a vu dans le passé continuera à être le même dans le futur. Ce qui est une hypothèse très forte, qui est une hypothèse qui marche souvent, mais qui ne marche pas tout le temps. Donc effectivement, malgré le fait que, bon, personnellement, évidemment, je suis scientifique et donc j'aime bien cette approche statistique, il faut garder en tête que quand on affronte un problème compliqué, il y a souvent besoin de compétences diverses, en particulier des compétences autres que des compétences scientifiques.
On va prendre une dernière question, vous êtes là-bas au fond.
Oui, bonjour. Je suis enseignante d'économie et de gestion à l'université à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Et je suis par ailleurs militante à l'association ATTAC, qui est l'association pour la taxation des transactions financières et l'aide aux citoyens. Et j'aurais beaucoup, beaucoup de remarques à faire sur, des commentaires à faire sur vos propos. Et puis j'aurais aussi une question qui s'adresse...
En bien ou en mal ?
Ce serait des précisions, c'est-à-dire que vous avez pris le problème sous un angle et que il y a beaucoup de façons de
bien
considérer ce problème.
Bien sûr, mais j'ai pris sous un angle scientifique et pas politique.
Oui, oui, tout à fait. Mais j'aurais une question justement technique à vous poser à la fin. Je voudrais rebondir sur la question du monsieur qui se questionnait tout à l'heure sur l'inégalité des différents acteurs sur les marchés financiers, en rappelant que les acteurs ne sont pas égaux, tous égaux sur les marchés financiers. Actuellement, on considère qu'il y a à peu près une vingtaine de gros acteurs qui pèsent sur les marchés financiers et qui savent parfaitement décrypter les signaux émis par les intervenants sur les marchés financiers, ce qui fait que en cas de gros mouvements, de gros mouvements surtout à la baisse, ces acteurs arrive à peu près à s'en sortir. Puis on a vu notamment dans le cas de la crise du mouvement de 1987, quand ces gros acteurs perdent, ils ne paient pas forcément, contrairement aux petits, à ceux qui boursicotent et qui, bien souvent, quand ils perdent, eh ben, ils perdent leurs économies, ils perdent l'argent qu'ils avaient mis sur les marchés financiers. Ces gros investisseurs bénéficient d'une bouée de sauvetage, si j'ose dire, en la personne des institutions financières qui ont peur de la propagation et donc de l'effet domino et de l'effet papillon, hein, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Et donc, on assiste, grosso modo, à une privatisation des bénéfices, puisque quand il y a des bénéfices, c'est gros investisseurs en poche, et à une socialisation des dettes, puisque en cas de problème, eh ben, l'infamie intervient, la Banque mondiale intervient, prennent de l'argent, etc. Donc ça, c'était la première précision. Tous les acteurs ne sont pas égaux. Il y en a qui pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd sur les marchés financiers. Donc à ce titre-là, il y aurait même une question sur le plan technique à poser. Est-ce que ça pose problème pour un modèle probabiliste tel que vous l'avez formulé, le fait qu'une minorité d'acteurs sont très actifs et peuvent peser sur la variation des marchés. Une deuxième chose sur...
Peut-être qu'il peut vous répondre
sur la... Je pose mes deux questions.
Si vous, on va tout mélanger. Est-ce que Jean-Philippe Bouchot a quelque chose à
alors,
répondre?
D'abord, évidemment, là, vous embarquez la discussion sur un terrain politique sur lequel je ne veux pas trop avancer. Simplement, je pense qu'il y a une vision un peu angélique dans ce que vous dites à laquelle je ne souscris pas, qui est le fait que les agents sont forcément inégaux par rapport au marché. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et, enfin, ça dépend un peu des marchés. Mais il y a des marchés qui sont tellement regardés par tellement de gens que si on pouvait effectivement détecter, comme vous le dites, des mouvements et en tirer parti, les gens le feraient. Or, si vous regardez un petit peu justement les gens qui essayent de faire ça, leur réussite est très contrastée. Et ce n'est pas tout clair, malheureusement pour eux, de pouvoir affirmer que les gros sont toujours gagnants. Au contraire, il y a un chiffre très très important à garder en tête, qui est les résultats de l'investissement des gérants financiers.
Par rapport à une stratégie simple qui est la stratégie du petit, si vous voulez le mettre comme ça, qui est simplement d'acheter le 1er janvier et de revendre le 31 décembre, c'est-à-dire de ne pas du tout avoir une activité de spéculateur sur les marchés, mais simplement de penser que investir dans l'industrie n'est pas une mauvaise chose collectivement, et donc faire ça, disons, de façon très, très naïve, sans chercher à profiter des mouvements quotidiens. Si on regarde les résultats des courses, on se rend compte que 90% des institutionnels font moins bien que cette stratégie passive. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que s'ils faisaient n'importe quoi, 50% feraient mieux, 50% feraient moins bien. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les institutionnels payent des frais de transaction directs ou cachés. Et donc, au bout du compte, si vous avez une stratégie active, mais que vous faites plus ou moins n'importe quoi, le 50% de probabilité a priori de faire mieux que l'indice va se transformer en beaucoup moins parce qu'en réalité, votre jeu est biaisé à la baisse par les frais de transaction. Donc, je ne suis pas du tout certain que alors, ça dépend un peu des marchés, etc. Mais je ne suis pas du tout certain que ce que vous dites soit véritablement validé par une analyse sérieuse des données, des profits des institutionnels qui, parfois, boivent des soupes considérables.
Oui,
alors, pour revenir à votre question, bien entendu, c'est une question très importante du point de vue de la modélisation, de savoir quelle est la distribution de la taille des investisseurs. Alors, en général, la démarche scientifique, c'est de commencer par des modèles les plus simples et de les enrichir ensuite en observant des anomalies de prédiction. Il se trouve que la taille des investisseurs est importante, mais pour la raison même que je rappelais tout à l'heure, que acheter et vendre ont un effet sur le marché lui-même, quand les gros investisseurs veulent acheter, il ne faut surtout pas qu'ils achètent d'un coup, parce qu'à ce moment-là, ils perdent énormément en frais de transaction induits par leur propre action. Donc ce que font les investisseurs gros, c'est d'essayer de se masquer le plus possible, de couper leurs investissements en petits morceaux et de les répartir pour justement ne pas faire évoluer les marchés. Donc l'idée que du coup, comme ces sommes sont réduites par le fait même des frais de transaction, la différence de volume entre agents est peut-être moins cruciale. Mais ceci dit, c'est une question ouverte et très intéressante. Et en particulier, effectivement, les codes de distribution sont probablement dus à des effets moutonniers de mimétisme et d'agrégation des fluctuations.
Participation autoréalisatrice.
Bon, venons à la suite.
Est-ce que j'ai le temps de poser une deuxième question ? J'aurais aimé...
Oui, allez-y.
Avoir votre point de vue, puisque vous vous placez sur le plan purement technique et statistique sur la théorie des marchés, sur l'effet potentiel de l'instauration d'une taxe type Tobin sur les transactions financières. Est-ce qu'elle aurait un effet désincitatif sur la spéculation financière ?
Très bonne question.
D'après vous.
Effectivement, c'est une question très, très intéressante. Et disons, personnellement, sur la mise en œuvre d'une taxe de ce type, bien comprise, et à l'échelle mondiale, surtout pour éviter un effet contre-productif absurde de cette taxe. Personnellement, j'y suis tout à fait favorable. Ceci dit, ce qui est intéressant justement dans la construction de modèles et de simulations, c'est justement qu'on peut essayer de prédire l'effet d'une telle taxe sur le fonctionnement des marchés. Donc je pense que, en fait, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus. C'est, a priori, je ne peux pas répondre à votre question, j'en sais rien. Mais justement, peut-être que si on a un bon modèle qui apparaîtra avec les années, à ce moment-là, on pourra faire fonctionner ce marché en présence ou en absence de cette taxe et voir les conséquences à long terme de leur apparition. Je pense que de la même façon que la science, en particulier, on a beaucoup parlé de la simulation dans l'arrêt des explosions nucléaires dans le Pacifique, la science se dirige de plus en plus vers une approche simulationnelle de la réalité. Je crois que l'économie, la finance vont profiter à terme énormément de d'une science qui devient moins axiomatique, moins technique, moins mathématique et plus simulationnelle.
Bien, nous allons en rester là en vous remerciant beaucoup, Jean-Philippe Beauchaud.